À la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rose-Marie Lagrave. Bonjour Rose-Marie Lagrave.
Bonjour, vous avez varié.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Rose-Marie Lagrave, vous êtes sociologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous venez de publier une enquête autobiographique dans laquelle vous revisitez votre parcours. Fille d'une famille nombreuse, issue d'un milieu rural, vous déjouez toutes les statistiques. Et par un jeu de lois alambiqué, je reprends vos mots, vous êtes passée de la case des gens de peu à celui de professeur à l'École des hautes études en sciences sociales. Dans ce livre, Rose-Marie Lagrave, c'est la première fois que vous parlez de vous, que vous dites « je ». Ça a été difficile, non ?
Très. Je le dis dans le livre, parce que nous avons l'habitude de dire « on », un impersonnel, pour donner du relief à l'objet de recherche. Et on dit rarement « je », encore que maintenant, la nouvelle génération, de plus en plus d'étudiants et de chercheurs osent dire « je ». Mais moi, c'était la première fois.
Et alors, c'était quoi, un vertige ?
Non, pas un vertige, dans la mesure où ce jeu, je l'ai replacé dans des contextes sociaux, culturels, historiques, qui font que je n'apparais pas comme un retour narcissique sur un moi qui rechercherait je ne sais pas quelle identité perdue. C'est pas du tout la façon dont je travaille, mais c'est d'essayer de montrer quel est le processus qui fait que on peut traverser des milieux sociaux très différents.
Oui, parce que vous êtes, Rose-Marie Lagrave, une transfuge de classe.
Voilà.
C'est un mot, c'est d'ailleurs dans le sous-titre de votre livre, « Se ressaisir, enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe ». Ça annonce la couleur.
Ben, ça annonce complètement la couleur. Mais c'est, quand j'ai écrit « transfuge de classe », vous pensez bien que pendant des années, je ne me suis pas dite « transfuge de classe ». D'abord parce que ma migration sociale, elle n'était pas faite. Et parce que ce mot m'était inconnu jusqu'à ce que, effectivement, je me plonge dans une littérature sociologique et historique où, effectivement, cette notion vient, où celle de transclasse vient au devant, et ces notions m'ont permis de me qualifier de la sorte.
Alors, Rose-Marie Lagrave, vous avez choisi comme journée particulière le 19 février 2012. Ce jour-là, vous fêtiez votre départ à la retraite de l'École des hautes études en sciences sociales.
Un homme qui a travaillé comme moi, par exemple, je cite mon cas, ça fait 52 ans d'étau, vous vous rendez compte que tout de même, j'aurais tout de même droit à un peu de repos.
Comme justement la vie mérite d'être vécue, il faut quand même... Donner à l'individu une certaine marge quand même de vie libre.
Et dans toutes les professions, c'est pareil, chez les manuels comme chez les intellectuels.
Cette retraite, vous l'avez prise avec plaisir ou est-ce que vous auriez...
Oh, bien sûr, j'ai prise avec plaisir, j'ai même prise avec anticipation.
S'il la donne à 65 ans, ça fait trop vieux, tout le monde n'arrive pas à en profiter de la retraite.
La retraite pour les hommes à 60 ans et pour les femmes à 50 ans.
Alors, à 60-65 ans maximum, parce que personne n'a travaillé jusqu'à 65 ans, hein.
Vous pensez qu'il faut se reposer après ?
Alors, oui, alors tu peux m'en avoir une idée.
Rose-Marie Lagrave, c'était une archivina de 1962. C'est le moment d'en profiter. Donc vous, votre journée de départ à la retraite a commencé par un traquenard.
Ben, un traquenard parce que j'avais été invité ce jour-là par une de mes collègues à être discutante dans un séminaire. Et puis j'arrive dans une grande salle où je vois, je sais pas, une soixantaine de personnes. Je vois à la fois des collègues de l'École des hautes études enseignants, des personnels administratifs, puis mes deux fils et une de leurs compagnes. Et là, je comprends que il se passe quelque chose. Et donc, c'était une espèce de rituel que mes anciennes doctorantes, qui maintenant sont chercheuses, m'avaient fait pour fêter mon départ à la retraite.
Alors, c'était pas du tout comme ça se passait d'habitude. D'habitude, c'est très codé, les départs à la retraite à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous, c'était une scénographie tout à fait inventée, avec plusieurs entorses, hein, ce que vous dites, déjà un mélange des classes socio-professionnelles. Et puis, au fond de cette pièce où vous avez donc fêté votre départ à la retraite, il y avait une grande banderole, une banderole rouge, c'est ça, Rosemary Lagrave ?
Oui, oui. Alors, vous mettez le doigt sur, effectivement, une modalité qui n'existait pas encore à l'école, un rituel ad hoc, je dirais, puisque à l'école des hautes études, c'est soit un pot de retraite pour le personnel administratif, soit la remise de mélange, c'est-à-dire d'un livre pour les enseignants, c'est-à-dire un ouvrage fait de textes qui, chacun à leur manière, soulignent les différentes facettes d'une œuvre d'un collègue. Et donc, cette journée a dérogé complètement à ce clivage en mêlant deux registres. Au fond de la salle, vous le dites, il y avait une banderole rouge avec le sigle EHESS écrit en blanc. Et cette banderole, on la portait lors des manifestations. Et puis, se mélangeaient pendant cette journée des exposés scientifiques, des anecdotes, des souvenirs partagés et des relations à plaisanterie, mêlant un public très, très, très composite.
Oui, alors il y a eu des interventions sur un ton un peu ironique, où oui. On parlait de votre façon de fumer, votre voilà. Propension à ponctuer vos phrases de « je rêve ».
Oui, absolument. C'est ce que les africanistes appellent les relations à plaisanterie.
Voilà, c'est ça, hein, c'était exactement ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous décrivez de cette journée, qui était une journée de briques et de brocs, une journée qui n'était pas dans les clous, pas dans les codes, c'est les interventions de vos deux fils. Parce que vos deux fils ont parlé et ont dit des choses intimes de vous. Ils ont dit votre peur permanente de manquer d'argent. Ils ont relevé une des expressions que vous disiez tout le temps, comme quoi vous aviez la boue qui restait collée à vos chaussures. Ils ont dit votre inquiétude et votre volonté de toujours bien faire, comme les gens qui doivent sans arrêt se prouver qu'ils sont légitimes là où ils sont.
Alors, pendant cette journée que mes fils ont dit cela, mais dans un entretien que j'ai fait avec eux.
Ah bah,
et j'attire votre attention sur le fait que jamais aucun sociologue n'a fait des entretiens avec ses propres enfants ou les membres de sa fratrie. C'était une première, entre guillemets, pour moi, et ça m'a donné effectivement beaucoup de tracas, parce que n'avais pas de mode d'emploi. Donc j'étais habitué à faire des entretiens non directifs pour essayer effectivement d'attraper la façon dont des interviewés vivaient leur vie. Mais s'agissant de mon frère et de mes sœurs, ou en plus de mes enfants, c'était beaucoup plus compliqué. Mais je dois dire que les uns et les autres ont joué vraiment le jeu et m'ont donné en don leurs paroles, qui ont été des corpus d'entretiens à analyser que j'ai croisés avec des archives familiales.
Alors moi, j'ai trouvé que, en tout cas, ces entretiens avec vos fils avaient tout à fait compris qui vous étiez.
Oui.
Et ils faisaient un portrait de vous assez juste. Il y a une autre chose que j'ai remarquée. Alors là, je pense que c'est dans cette journée de votre oui. peau de retraite. C'est que vous avez découvert ce jour-là qu'il y avait certaines de vos étudiantes doctorantes qu'on avait surnommées les gravettes.
Oui, parce que je ne le savais pas. L'une d'entre elles dit « Mais est-ce que tu sais que il y avait un camarade, un étudiant, qui nous avait nommé les gravettes, comme les Claudettes ?»
En référence à votre nom de famille, Lagrave.
Donc les gravettes. Et pourquoi les gravettes ? Parce que elles étaient doctorantes, mais pas seulement. À l'époque, j'avais aussi créé un atelier genre, regroupant mes doctorantes pour qu'elles travaillent ensemble, et puis elles faisaient appel à moi si elles en avaient besoin, mais elles étaient autonomes. Et dans cet atelier, il y a eu des amitiés, mais il y a eu un travail extraordinaire entre elles, et ça faisait un peu un espace amical qui était peu fréquent à l'école des hautes études, et cet étudiant, elle les avait appelés les gravettes. Du coup, ce qui était drôle, c'est que quand elle a dit les gravettes, j'ai dit, mais mince, j'ai fait des filles symboliques sans le savoir, quoi.
Pas mal.
C'était pas mal.
Ceci dit, là, vous dites que vous vous êtes dit ce jour-là, mince, j'ai fait des filles symboliques, mais ce jour-là, vous n'en meniez pas large, ce 19 février 2012, Rosemary Lagrave. vous étiez tétanisé par cette journée, par les marques d'affection qu'on vous faisait, et puis vous aviez peur de craquer, si j'ai bien compris. Vous avez eu peur de pleurer toute la journée. Vous étiez accroché à votre Kleenex.
Oui, j'étais effectivement. Les photos qui ont été prises des séances montrent que je suis accroché à mon Kleenex. Mais comme toute ma vie, j'ai essayé de tenir droite. Je n'ai pas explosé, mais j'étais toujours très ému. En sorte que, normalement, dans un rituel de mélange, celui qui est honoré ou celle qui est honorée répond. J'étais incapable de dire quoi que ce soit. J'écoutais de façon lancinante ce qu'on disait de moi. Et cette journée, c'était, je l'ai vécu, comment dire, comme un espèce de miroir réfléchissant qui m'a permis de comparer le récit de ma trajectoire au récit d'autres personnes qui me renvoyaient comme ça en une image en cohérence ou en dissonance avec celle que j'avais élaborée. Et du coup, c'était une évaluation à la fois sympathique et ironique de mes travaux, faites par mes pairs. Et ce type d'évaluation faite par mes pairs, je trouvais plus pertinente que celles qui sont faites par toutes les évaluateurs patentés de la recherche, parce que c'est une évaluation qui m'a obligé à prendre cette image de moi vue de l'extérieur comme un don sympathique.
Alors ce 19 février 2012 dévoilait en creux un portrait de vous, Rosemarie Lagrave. En 2012, Camille chantait « Allez, allez ». Et on a pensé que cette chanson vous irait bien.
Allez, 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 à chaque coup de rame, prends la force dans la taille et dans les talons. Allez, allez, allons, à chaque coup de pioche, prends la force, c'est fastoche. Ma chanson, de ma chanson. Allez, 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 à chaque coup de sabre, prends la fougue des canailles et des moussaillons. Allez, allez, allons, à chaque coup de cloche, prends la crasse, le cri des mioches et des cas.
Allez, Rosemarie Lagrave, une chanson laborieuse pour vous. Vous avez ramé, hein, ça vous va bien cette chanson, vous avez ramé dans votre vie.
Ramé, c'est marrant, je n'ai jamais écrit ce mot dans mon livre. Vous me le suggérez et au fond, ça me va bien.
Ça vous va bien?
Ça me va bien parce que, comment dire, lorsque les conditions sociales, culturelles ne sont pas données à la naissance, entre guillemets, il faut les acquérir. Et donc acquérir le savoir, acquérir des amitiés, acquérir un travail, c'est constamment des recherches d'opportunités, d'essayer d'être assez lucide pour voir les occasions à prendre ou à ne pas prendre, et de savoir que c'est par son travail et pas seulement, parce que je pense que il faut aussi des alliés d'ascension. C'est-à-dire, il faut quand même des gens qui vous aident à passer des caps. Mais le travail est au cœur de cette mobilité sociale et au cœur de ce qui a fait ma vie, au fond, je m'en aperçois. Hein. Dans cette journée particulière, tout le monde le disait.
C'est ça. Alors, on va reparler de vos alliés, Rosemary Lagrave. Donc, pour les auditeurs, je rappelle que le 19 février 2012, c'est votre journée particulière. Ce jour-là, donc, vous fêtiez votre départ à la retraite de l'École des hautes études en sciences sociales. C'était une journée à l'image de votre parcours. Accident sociologique, votre trajectoire, vous l'avez écrite chemin faisant, déjouant toutes les statistiques et les règles sociologiques. Vous êtes une transfuge de classe, issue du monde rural, et Annie Ernaux est pour vous, Rosemary Lagrave, une référence constante, une compagne bienveillante, une sœur littéraire. Vous avez dévoré ses livres. En quoi les livres d'Annie Ernaux faisaient écho à votre propre trajectoire ?
Bien d'abord parce que nous sommes de la même génération, si j'ose dire. Et dans les livres d'Annie Ernaux, elle décrit complètement l'évolution année par année, les événements politiques, les événements dans son village, comment elle a accès à certains journaux, ce qu'elle entend à la radio. Et tout ce qu'elle dit, je l'ai vécu. C'est comment dire, elle a déjà tout dit d'une certaine manière. Et livre après livre, j'avais une espèce de, comme beaucoup de femmes de ma classe d'âge, on avait une identification à Annie Ernaux. Ou plutôt, Annie Ernaux a su littérairement évoquer la manière dont ces années après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant se sont déroulées sur l'avortement, sur la contraception, sur les livres, sur ses amours. On était avec elle. Et quand je dis que lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais toujours Annie Ernaux dans ma tête, et je dis, j'ai l'impression qu'elle regarde par-dessus mon épaule. Mais parce que c'est une amie littéraire.
Hein. Alors, je vous propose justement de l'écouter au micro de Geneviève Brisac. C'était en 2015 sur France Culture.
Il y a un sens qu'on retrouve absolument au fil de tous vos livres, du barème, de la hiérarchie, de ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que font les gens bien, ce que font les gens pas bien.
Oui, mais c'est comme ça qu'on pense quand on est né dans le monde dominé. C'est-à-dire que le dominé en saura toujours beaucoup plus sur les hiérarchies, sur le monde dominant, même s'il ne le connaît pas, même si ce monde-là est invisible. Il en saura toujours beaucoup plus que le dominant. On est tout de suite affronté à la lutte des classes, on est affronté tout de suite au regard condescendant, aux paroles qui stigmatisent d'une manière extrêmement violente. Et ce sont des expériences si précoces qu'elles ne peuvent que être fondatrices, en quelque sorte. Et donc, obligées à prendre, dans l'écriture elle-même, au départ, vous avez dit combien les armoires vides étaient violentes. C'est un livre extrêmement violent, effectivement, pour raconter justement ce passage. Et comment l'école, je vais adhérer complètement aux valeurs de l'école, je vais me retourner contre mon milieu familial en me demandant pourquoi au fond mes parents ne parlent pas bien, pourquoi mes parents préfèrent les films de Fernandel et de Bourville à d'autres films, pourquoi mon père ne veut jamais aller nulle part, comme il dit, et qu'il préfère son jardin, pourquoi il n'aime pas lire, etc. Donc c'est ce livre-là et le livre fondateur où je mets au jour, effectivement, à travers un destin individuel qui est le mien, cette hiérarchisation de la société et aussi comment l'école, qui se veut libératrice, même si elle est privée, elle est tout de même, elle est toujours libératrice, elle est le fondement de ma liberté, mais en même temps, elle m'a fait passer de l'autre côté, elle a détruit énormément de choses et elle m'a donné ce sentiment de traîtrise, bien sûr.
Rosemary Lagrave, vous avez, vous aussi, eu ce sentiment de traîtrise ?
Non.
Non. Alors, parce que vous aviez des alliés, justement, et que vous étiez d'une famille nombreuse, c'est pour ça ?
Oui. C'est-à-dire que je pourrais reprendre toute la première partie de ce que dit Annie Ernaux, mais pas la seconde.
C'est ça.
L'école m'a fait accéder au savoir, au lycée, mais je n'ai jamais eu honte de ma famille, parce que moi, je dois à mes sœurs et à mon frère cet élan collectif et fraternel et sororal qui nous a prises les uns et les autres et qui nous a permis de nous reconnaître et de se reconnaître. Et nous n'avons eu, je veux pas parler pour elles, mais en tous les cas, moi, je n'ai jamais eu honte de mes parents parce que j'avais tout à fait conscience que il ne pouvait pas être autrement qu'ils n'étaient, étant donné les conditions matérielles dans lesquelles ils ont vécu, étant donné l'éducation et la formation catholique rigoriste qu'ils avaient eue. Il me semblait que ma position était de les connaître, de connaître pourquoi, effectivement, cette enfance avait été difficile pour eux et pour les enfants, mais sans les juger.
Et c'est ce que vous faites dans votre livre. Et dans votre livre, en vous lisant, ce qu'on comprend, c'est que vos parents, donc vous viviez à la campagne, mais vos parents ne travaillaient pas la terre, vous viviez des allocations familiales, votre père était malade, la maladie court dans toute votre enfance, la tuberculose est là, votre mère était femme au foyer, mais vos parents avaient chacun essayé, déjà, avaient déjà commencé une sorte d'ascension sociale par rapport à leur propre milieu d'enfance, ascension brisée par la guerre, par l'exode et par la maladie. Donc vous ne partiez pas de rien, Rosemarie Lagrave, et vous étiez 11 enfants, et ça faisait des alliés pour avancer. C'est ça, hein, c'est ça que vous décrivez.
Oui, c'est cela. C'est-à-dire que j'essaie, à partir des archives familiales, de dire que à la génération de mes grands-parents, ils avaient déjà amorcé une petite pente ascendante. Mes parents ont continué sur la lancée jusqu'à ce que mon père attrape la tuberculose, mais à cette époque, la tuberculose, on avait très peu de médicaments. Donc, mon père a été invalide à partir de l'âge de 30 ans. Et je me souviens de lui, il avait le mal de pote, c'est-à-dire il était dans un corset, il allait souvent à l'hôpital, et donc il était invalide 100%, comme on disait à l'époque. Et donc, on a vécu avec mon père malade et mon frère aîné autiste. Et donc, quand je vous dis je n'ai jamais eu honte de ma famille, comment voulez-vous qu'on ait honte d'une famille dans laquelle, effectivement, la maladie était omniprésente? Au contraire, ça ne peut être que la solidarité et de voir que de cela, il fallait faire avec.
Pourtant, vous avez été élevée à la dure, Rosemarie Lagrave. Votre père, vous ne vous laissez rien passer. Vous avez une éducation rigoriste, religieuse, dans le péché, vous mangez des myrtilles dans le jardin et c'était péché de gourmandise. Enfin, ça a été dur. Et votre père qui disait tout le temps cette phrase, je te rabattrai ton faux orgueil, c'était pas rose quand même, hein.
Non, c'était pas rose. Mais, je voudrais, la manière dont mes parents nous ont éduqués, c'est à replacer avec le contexte de l'époque.
Alors à la maison, les parents étaient abonnés à La Croix, au Petit Écho de la Mode, et vous écoutiez aussi le feuilleton de la famille Duraton.
Oui.
13h10, les Duraton permissionnaires avec Jean-Jacques Vital, Jean Granier, Yvonne Galli, Élise et Lina.
Lisette, sois gentil, apporte-moi l'annuaire du téléphone.
Celui des noms ou celui des rues, papa?
N'importe, c'est pour me le mettre sur la tête.
Quoi?
Oui, ne cherche pas à comprendre, mon chéri, apporte-moi l'annuaire.
Tiens. Voilà.
Merci. Regarde, je le pose sur ma tête.
Oui, je vois.
Parce que je m'entraîne pour être mannequin militaire.
Toi aussi?
Oui, Jean-Jacques était au renseignement ce matin. Alors, je voudrais acquérir de l'aisance, de l'allure. Mmh. Et j'ai lu dans Marie-Claire qu'il fallait se mettre un livre très lourd sur la tête.
Je vais te donner celui des noms, il est bien plus gros. Tiens.
Oui, alors, je vais mettre les deux, tiens. Et puis, il faut pas qu'il tombe, hein. Alors, regarde si j'ai de l'allure.
Ça vous amuse, Rosemarie?
Je ne m'en souvenais plus du tout. Alors que je l'ai écouté toute mon enfance, la famille Duraton, on ne l'arrêtait pas.
Alors je voudrais qu'on parle de vos instituteurs. Vous avez eu des instituteurs formidables.
Extraordinaires.
Hein, qui ont été des repères toute votre vie pour vous.
Ah oui.
Et il y en a un qui vous a, entre autres, emmené passer votre examen pour rentrer au collège, pour rentrer en sixième.
Oui.
Et c'était la première fois que vous alliez dans une ville.
Absolument. C'était Monsieur Morvan. Vous savez, j'avais lu pas mal d'historiens sur les instituteurs. Et en me souvenant seulement avec mes souvenirs de comment ils ont été, je me suis dit, c'est des hussards noirs de la République. Et en analysant leur parcours dans les archives et en faisant des entretiens avec leurs enfants, je me suis aperçu que ils étaient des hussards noirs, mais par expérience. Il n'y avait pas une vocation initiale, mais petit à petit, ils avaient compris que l'école était un des éléments possibles de sortir des enfants du peuple, comme dit Michelet, de leur classe sociale. Quand les instituteurs dans ce village ont vu ma famille arriver, des enfants qui parlaient correctement le français, puisque mon père, qui avait à peu près le niveau du bac, puisqu'il était allé au séminaire, ne voulait pas qu'on fasse une faute de français, qui avait été éduqué à se tenir droit, strict, voilà. Si vous voulez, c'était la rencontre entre les intérêts de ma famille à nous envoyer au lycée avec une bourse pour avoir moins de bouches à nourrir, mais aussi des instituteurs qui, avant l'arrivée de ma famille dans ce village, n'avaient jamais envoyé d'enfants au lycée.
Vous êtes les premiers.
On était les premiers. Donc, lorsque mon instituteur m'a emmené dans sa propre voiture passer l'examen d'entrée en sixième dans un lycée de la ville, j'étais angoissé, comme c'est pas permis, mais moins angoissé par les épreuves que de me dire si je suis collé par rapport à ce monsieur Morvan, qu'est-ce que je vais dire? Je voulais lui plaire, je voulais lui redonner tout ce qu'il m'avait donné, hein.
Ouais.
Et je me souviens qu'il m'a emmené au restaurant et que, au restaurant, je ne pensais pas aux épreuves, mais à me tenir bien à table, puisque j'avais jamais été au restaurant avant.
Ben non, c'était la première fois.
C'était la première fois.
Il fallait être digne.
Eh ben, il fallait que je lui montre que j'avais les manières de table.
Comme votre mère, vous l'avez enseigné.
Vous l'avez enseigné. Absolument.
Rosemary Lagrave, vous tenez à rendre à l'État ce qui est à l'État. Et vous tenez à remercier cet État-providence sans qui vous ne seriez jamais devenue la femme que vous êtes devenue et la directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous aimez dire et revendiquer le terme d'assister.
Oui. Les politiques publiques, l'État-providence qui a été apparemment maintenant moins providentiel qu'il n'y paraît. Sans ces politiques publiques, ma famille n'aurait pas survécu, aurait eu une déchéance qu'elle n'a jamais eue. C'est-à-dire, quand on fait les comptes, et je les ai faits, par l'État, nous avons eu des allocations familiales. Mon père a eu une pension d'invalidité, mon frère aîné a eu une pension d'invalidité. Nous avons été 6 filles et un garçon à obtenir des bourses d'études au lycée, mais aussi pour 2 ou 3 d'entre nous, dans l'enseignement supérieur. Donc, sans cette aide de l'État, on n'aurait jamais pu décoller et faire des études supérieures. Et donc, ça, il me semble que c'est très important de rendre à César ce qui est à César et de penser que être assisté, ça n'est qu'un moment. C'est le moment où, effectivement, l'État mise sur un certain nombre d'individus ou de groupes, mais il s'y retrouve ensuite. Et donc, je veux dire, ce qui me met hors de moi, c'est de montrer qu'il y aurait des assistés et les autres. Hein. Mais c'est au contraire un investissement étatique pour essayer de faire progresser et de diminuer autant que faire se peut les différences et les inégalités sociales dans la France contemporaine. Voilà.
Je ne suis fille de personne, je ne suis d'aucun pays. Je me réclame des hommes, aimant la terre comme un fruit, aimant la terre comme un fruit. Au gré de l'amour, je veux m'abandonner au rythme des jours et des nuits dévoilées. J'aime le goût d'écume, la saveur des embruns, la douce amertume des brumes du matin. Reverrai-je encore l'automne, le temps des grandes marées, puis l'hiver où tout frissonne, puis un printemps, puis l'été, toutes saisons pour aimer. Je ne suis fille de personne, je ne suis d'aucun pays, je me réclame des hommes, aimant la terre comme un fruit, aimant la terre comme un fruit. Au gré de l'amour, peut-on s'abandonner quand on se souvient ce que sera demain? Contre les humains qui sèment dans leur coin, les forêts d'acier fleurissent de barbelés. Sommes-nous tous si peu de choses, des insectes trop petits, condamnés par quelques hommes, bouche ouverte sur un cri? Est-il encore temps d'aimer? Je ne suis fille de personne, je ne suis d'aucun pays. Je me réclame des hommes, aimant la terre comme un fruit, aimant la terre comme un fruit. Au gré de l'amour, je veux m'abandonner dans un lit de sable par les vagues bordées, sous le grand soleil avant d'être glacé, au bruit des abeilles, vivre le temps d'aimer. Laissez revenir les neiges, les feuilles mortes s'envoler. Laissez-moi me prendre au piège du doux plaisir d'exister. Laissez-moi le temps d'aimer.
Jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière de la sociologue Rosemarie Lagrave, directrice de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, qui, à travers une enquête autobiographique, interroge sa propre trajectoire. Rosemarie Lagrave, c'est en entrant au lycée que vous avez ressenti pour la première fois la honte sociale. Et cette honte n'a jamais cessé de vous empoisonner, et ça a toujours empoisonné votre rapport au monde et votre rapport aux autres. Réussir à se reclasser suppose d'en payer le prix. Quel est le prix que vous avez payé, vous, Rosemarie Lagrave?
Je pense une angoisse constante et un sentiment d'illégitimité qui me poursuit.
Encore aujourd'hui?
Alors, dans cette journée si particulière que vous m'avez donné l'occasion de décrire, c'est peut-être là où quelque chose m'est venu de « mais si les autres disent que je suis légitime, pourquoi pas ?» Mais ça ne pouvait venir que de l'extérieur. Donc, la honte sociale que j'ai éprouvée au lycée, je l'ai éprouvée parce que c'est le regard des autres qui fait la honte. C'était pas moi, j'avais pas honte. Mais ça, c'est le regard des autres sur soi, c'est-à-dire on est mal habillé, à ce moment-là, je ne pouvais pas penser que la honte sociale. Ensuite, en sociologue, j'ai vu que c'était un mépris de classe, hein. C'est-à-dire effectivement, c'est les dominations de classe et le mépris de classe qui fait que on reporte un regard de superbe ou de dominant sur quelqu'un qui vaut pas un clou. Mais au fond, cette honte sociale, elle m'a quitté assez vite. Parce que j'ai compris, avec mes engagements féministes, avec la sociologie, que le regard de l'autre ne peut pas non plus complètement enfermer ce sentiment que l'on a de soi. Et donc, très vite, j'ai politisé cette question en disant « le mépris, c'est un mépris de classe ». Et donc, le mépris de classe, c'est politique.
Alors, je continue sur votre trajectoire. Rosemarie Lagrave, vous avez été étudiante, mais une étudiante pas comme les autres, parce que vous deviez travailler en plus de la bourse que vous receviez. Et puis, vous avez très rapidement eu deux enfants. Vous êtes retrouvée seule avec deux enfants. Vous avez quand même réussi à obtenir votre licence de sociologie, hein, grâce à la solidarité des étudiants, puis votre doctorat. Et c'est quand même par la petite porte que vous rentrerez à l'École des hautes études en sciences sociales. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que cette petite porte et comment vous avez transgressé là les règles de la bienséance académique?
Oui, j'étais en doctorat avec Placide Rambaud, qui était directeur d'études à l'École des hautes études, qui maintenant est décédé. Et voilà, je faisais mon doctorat. J'étais pionne à côté à l'époque. Avant, j'ai travaillé dans une bijouterie. Mais à ce moment-là, je cherchais du travail parce que j'avais arrêté d'être pionne lorsque mon premier fils est né. Et donc, lorsque il y a eu une rupture conjugale avec le père de mes enfants, j'ai commencé à travailler en faisant des enquêtes, puis à un moment donné, j'avais plus rien. Et puis, un jour, je vois mon directeur de thèse, parce que nous avions un rendez-vous au sujet de ma thèse, et je lui dis « mais est-ce que vous n'auriez pas un travail ?» Il m'a regardé berlué en disant « si vous croyez que c'est comme ça qu'on rentre à l'École des hautes études ». Mais moi, j'avais pas dans la tête que je rentrais à l'École des hautes études un travail. Voilà, parce que je voyais qu'il y avait des gens qui travaillaient dans son centre. Mmh. Et il me dit, mais voilà, il m'a dit, mais bien sûr que non. Et puis, d'un air de dire, mais vous ne connaissez pas les codes, quoi. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Puis c'est tout. Donc, j'ai fait plein de petits boulots. Puis, 6 mois après, il me rappelle en disant, mais est-ce que vous êtes toujours libre? Parce que, voilà, nous avons une grande enquête que l'on doit remettre très vite et il nous manque une vacataire. C'est comme ça que comme vacataire, et je suis resté vacataire 5 ans, que je suis rentré à l'école des hautes études. Bon.
C'est à l'image de tout votre parcours.
Ben oui. C'est-à-dire, il y a une opportunité. Alors, j'ai eu un sacré culot quand même de dire ça à mon prof. Mais ce culot, il me vient de la méconnaissance, de comment on ne dit pas des choses comme ça. Et puis par nécessité.
Voilà, quand par nécessité, il fallait manger.
Voilà que je trouve du fric, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais alors, vous rentrez par la petite porte, mais vous avez toujours eu du mal à vous orienter dans le monde académique. Mais il y a une personne qui a été un peu comme une boussole pour vous, c'est Pierre Bourdieu.
Je viens d'un tout petit village du Béarn, du sud-ouest de la France, bon, et d'une famille de tout petits fonctionnaires. Bon, mon père a accédé à la fonction publique très tard, après avoir passé, 25 ou 30 premières années comme fils de petit métayer pauvre. Bon, et il a donc été toujours dans une position tout à fait inférieure, quoi, dans le monde, y compris dans ce monde inférieur qu'est le monde rural. Voilà. Bon, donc mon enfance est marquée par une expérience de de l'inégalité sociale, de la domination, et je pense que je n'en ai tiré aucun ressentiment. Au contraire, je n'ai que, en général, les gens qui sont dans ma position, qui ont fait des trajectoires qu'on peut appeler foudroyantes, qui viennent du plus bas pour aller au plus haut, en général, ils sont très heureux du monde social. Ce qui fait problème, c'est que je ne sois pas un universitaire heureux.
Vous êtes ému, en écoutant Pierre Bourdieu, Rosemarie Lagrave.
Oui.
Cet archive corrobore tout à fait l'image que vous avez de lui, c'est-à-dire vous pensez qu'il avait deux visages, Pierre Bourdieu, quand vous le rencontriez. Vous aviez l'impression de voir à la fois un homme anxieux et puis un homme glorieux.
Oui,
et c'est ça
absolument.
Qu'on entend dans cet archive.
Oui, ce qu'il dit quand même, l'amplitude foudroyante qu'il a eue, hein, ce qui est rare quand même, hein, petit-fils de métayer et professeur au Collège de France, c'est, comme il dit lui-même, une amplitude extraordinaire. Mais plusieurs fois, je l'ai rencontré à des occasions diverses et souvent, il n'était pas bien. Quand il dit « je n'étais pas heureux », ben j'avais ce côté-là. Ça va pas, quoi. Je suis pas bien, on me reconnaît pas. Et c'était, pour moi, très touchant qu'il se laisse aller à dire ce qu'il ne disait pas en public. Et pourtant, en public, même dans sa conférence inaugurale au Collège de France, on sentait bien qu'il y avait quelque chose de ce fardeau originel qui lui remontait. Et voilà. Et je ne sais pas si l'amitié qu'il a eue pour moi et que j'ai eue surtout pour lui tient au fait que entre transfuges il y a une certaine reconnaissance, mais en tous les cas j'ai eu une grande admiration pour lui.
Alors c'est un fardeau que vous partagez, Rosemarie Lagrave, ce fardeau dont vous parlez, ce fardeau qu'il portait. Et est-ce que vous avez été vous une universitaire heureuse?
Oui.
Ah, vous l'avez été.
Je pense, oui. Même si j'ai trimballé, comme je vous ai tout à l'heure dit, mon sentiment d'illégitimité, en sentant bien que, voilà, je ne faisais pas partie des grands hommes et des grandes femmes. Accéder à ce milieu, voir la stimulation intellectuelle, les débats, lire à propos de, discuter, ça a été un milieu fantastique pour moi, où la curiosité intellectuelle était toujours stimulée et où j'ai vécu comme un poisson dans l'eau, même si je me sentais pas toujours bien, parce que j'étais un peu entre deux eaux, si vous voulez.
Oui, hein, toujours.
C'est-à-dire ni totalement intégré, mais jamais complètement exclu non plus, vous voyez. Et c'est cette hybridation, cet entre-deux qui font que, au fond, les transfuges de classe, ils ont un prix. Parce que ils ne se laissent jamais happer par un milieu ou par un autre. Ils inventent une espèce de bulle qui fait que on en prend et on en laisse. hein, et que je voyais voilà ce milieu où la concurrence, où voilà, ben moi j'ai jamais joué la concurrence parce que entre guillemets j'avais pas les armes pour le faire d'abord, mais que ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est ce qui sort, comment on produit des savoirs et comment on les transmet.
Mais ce que vous dites aussi, Rose Barella Graf, c'est que ce qui vous a tenu droite, votre épine dorsale, ce qui a été pour vous l'épine dorsale qui vous a tenu droite, c'est le féminisme. Parce que face à cette illégitimité permanente, c'est le féminisme qui a fait que vous avez pu traverser aussi ce monde-là et y trouver votre place. Même s'il vous a fallu du temps pour voir qu'en dépit des inégalités de classe, les femmes ont en commun d'être reléguées à des statuts de subalternes. Et il y a d'ailleurs une anecdote de Françoise Héritier, qui était aussi directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui était à votre pot de retraite, je crois. Une anecdote qu'elle aimait raconter qui illustre parfaitement la place des femmes au travail et y compris au Collège de France.
On n'était qu'entre hommes, si je puis dire. Il y avait 20-22 professeurs de sciences humaines. Et on était ensemble, réunis, pour discuter entre nous sur un thème commun. C'était une très riche idée de Gérard Fussmann et de Georges Duby. Et ça marchait magnifiquement. Cette première année, on travaillait sur le sang, un beau sujet. On avait tous quelque chose à dire sur le sang. Et à la fin de la première journée, cela se passait à la Fondation Hugo, qui appartient au Collège de France, de l'université, je crois, et qui était totalement démunie de tout moyen d'enregistrement. Et Georges Duby a dit « Écoutez, mes chers collègues, c'est formidable ce qu'on fait ici, sans auditoire, sans étudiants, sans personne. On laisse libre cours à notre imagination, notre créativité. C'est quand même dommage que tout ça soit perdu. Il faudrait que quelqu'un prenne des notes. » Et très naturellement, il s'est tourné vers moi en disant « Est-ce que vous le feriez, Françoise ?» Alors, ce à quoi j'ai répondu tout aussi naturellement que je n'étais pas programmée génétiquement pour les prendre mieux que lui. Et il n'a plus été question de prendre des notes. Mais le raisonnement était imparable, vous comprenez, dans sa facilité. Nous sommes tous entre égaux et nous parlons entre égaux de choses passionnantes. Et puis voilà, il y a une tâche subalterne à accomplir. Les tâches subalternes, c'est les femmes qui les accomplissent. Il y a une femme parmi nous. C'est donc à elle de s'y coller. C'était ça le raisonnement, vous voyez.
C'était Françoise Héritier au micro de Kathleen Evin en 2012. Vous la connaissiez, évidemment.
Sa voix douce, et puis cette anecdote, elle me l'avait racontée aussi.
Elle est incroyable.
Elle est extraordinaire, extraordinaire.
Alors vous, Rosemarie Lagrave, vous avez créé un master à l'École des hautes études en sciences sociales, un master genre, sexualité et politique. Vous êtes battue pour ça. Et vous, c'est là où il y a les petites gravettes qui sont arrivées pour étudier avec vous. Parce que vous pensez que, en articulant classe sociale et genre, il se passe autre chose. On porte un autre regard sur les problèmes de domination dans la société.
Mais oui, il a fallu se battre, y compris à l'intérieur de l'École des hautes études, parce que, au fond, créer ce master, c'était vu comme du séparatisme, un ghetto, vous allez travailler, voilà, alors que lorsqu'on fait un master sur, je sais pas, en linguistique, on dit pas tiens, c'est séparatiste ou je sais pas quoi. Et donc, il a fallu que se battre à la fois de façon institutionnelle pour que cette institution accepte ce master et il l'a accepté surtout parce que si on comparait la France avec les États-Unis ou d'autres pays où il y avait des masters genre et des filières genre, la France était vraiment
très
la parente pauvre.
Ouais.
Et donc ce master a été créé, mais ce qu'il fallait aussi, c'est une lutte aussi cognitive pour essayer de montrer que le genre n'était pas comme ça une variable contingente, mais qu'elle faisait parler tout autrement les inégalités sociales. Un homme et une femme n'ont pas les mêmes positions, ni dans les salaires, ni dans les emplois, ni dans le partage du travail domestique, ni au congé de parentalité, ni dans l'espace politique. Et on voit qu'il y a une espèce de césure constante avec la balance qui penche d'un côté et pas de l'autre, où au fond, voilà, ce qu'il fallait montrer, c'est comment croiser avec les inégalités de classe, il y a des inégalités selon le genre qui viennent nuancer et se cumuler aux inégalités sociales. Et ça, c'est important. Alors, je sais toute la bêtise du monde en ce moment qui montre que l'intersectionnalité, c'est une idéologie, ce qui est d'une imbécilité totale, puisque l'intersectionnalité, c'est bien d'abord une méthode, et pas facile du tout, et pas facile du tout, pour essayer de croiser un certain nombre d'éléments qui vont venir nuancer, pondérer justement les classes sociales, mais le genre, mais l'âge, mais la race, la classe, et voilà. Et donc c'était un enjeu, un défi, à la fois scientifique et institutionnel. Et je pense que ce défi-là, il fallait le transmettre et il continue à être un enjeu, puisque maintenant, on nous dit qu'on est, quand on fait de l'intersectionnalité, qu'on oublie les classes sociales. Mais non, on n'oublie pas les classes sociales. Et deuxièmement, quand on fait de l'intersectionnalité, on est des islamo-gauchistes. Alors ça suffit. Alors que justement, c'est une approche scientifique et méthodologique comme une autre.
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
Stop. What the hell are you talking about?
Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn.
Just know
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
I'm sorry. I don't think I caught your name. I'm sorry.
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Alors, le 19 février 2012, c'est votre journée particulière, Rosemarie Lagrave. Et en 2012, on dansait sur une... Vous faites des grands yeux déjà, mais ça ne m'étonne pas, c'est ce qui nous arrive toutes les semaines. On dansait sur de la musique coréenne et on dansait sur Gangnam Style.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style.
On se disait que peut-être vous auriez pu avoir dansé dessus le jour de votre départ.
Non, je connaissais pas du tout cette musique.
Ah, mais faut regarder
Elle donne envie de danser, objectivement.
Ah oui, puis la chorégraphie vaut le détour. Ouais, vous pouvez regarder.
Oui.
Alors, Rosemarie Lagrave, avant de se quitter, c'est la tradition dans cette émission. On vous offre une archive, un cadeau Pour vous, Rosemarie Lagrave, c'est Simone de Beauvoir parlant de son livre La vieillesse.
Simone de Beauvoir, pourquoi ce livre ?
C'est que j'aime toujours bien savoir quelle est la condition qui est la mienne, la savoir d'une manière alors très très générale. Et il y a 20 ans, j'ai voulu bien comprendre ce que c'était que la condition de la femme. Et maintenant, au seuil de la vieillesse, j'ai voulu comprendre ce que c'était que la condition de vieillard.
Quand on vous connaît, madame, on se doute que vous n'avez pas écrit ce livre dans un sens, je dirais, académique ou esthétique ou historique, et que vous avez voulu qu'il serve à quelque chose.
Bien, je voudrais que les gens se rendent compte qu'une société qui réduit ses membres à la fin de leur vie à un sort aussi misérable, à la fois économiquement et psychologiquement et sous tous les angles, une société a quelque chose en elle de pourri et qu'on ne peut pas la réformer tout simplement, qu'il faut vraiment la bouleverser complètement. Et je voudrais que les gens prennent conscience de ça, que vraiment c'est une tare qui met en cause la société tout entière. La vieillesse qui est faite aux travailleurs, à l'ensemble des membres actifs de la société, est quelque chose de réellement déshonorant et qui dénonce la société dans tout son ensemble.
Donc c'était donc Simone de Beauvoir en 1970, Rosemarie Lagrave. Je vous voyais hocher de la tête.
Mais oui, oui, parce que le livre La vieillesse de Simone de Beauvoir, moi je l'ai lu, ça fait à peu près 2 ans. Alors que le deuxième sexe, tout le monde en parle, et je trouve que La vieillesse est un livre absolument incroyable, d'une densité. Lorsque le journaliste lui dit c'est pas académique et historique, mais si justement, parce qu'il y a les deux, mais aussi c'est accessible et il y a une somme de connaissances sur la vieillesse et l'évolution, l'historicisation de la vieillesse qui est extraordinaire.
Ça vous nourrit, vous, pour vivre votre propre vieillesse ?
Pas pour la vivre, mais pour en comprendre les aléas et comprendre ce que nos sociétés, notre société française, fait à la vieillesse et aux vieux. Et donc, Simone de Beauvoir donne toutes les cartes pour comprendre cela. Mais lorsque l'on voit, si vous voulez, ce que vous avez, l'archive, ce monsieur tout à l'heure qui disait « Quand on est vieux, la retraite, ça fait du bien ». Et Simone de Beauvoir qui dit la même chose. C'est-à-dire que la vieillesse n'est pas du tout la même quand on est un ouvrier manuel qui toute sa vie a eu mal aux côtes et a eu des maladies. Et puis, ma propre vieillesse qui est privilégiée, je peux continuer à travailler. Et donc, si vous voulez, la vieillesse, elle est socialement construite. Et ce que je dis dans mon livre, c'est que... C'est un scandale, au fond, parce que on arrive en bout de vie, on a donné tout ce qu'on a pu pour la société, on a aimé, on a milité, et qu'est-ce qu'on devient ? Et qu'est-ce qu'on devient ? Et là, je me dis qu'il faut une éthique du respect, une éthique de vérité par rapport à cela, parce que moi, je ne veux pas constituer les vieux en classe d'âge. Moi, la vieillesse, pour moi, c'est le début de la dépendance et la perte d'autonomie. Et ça, on peut l'avoir, la non-indépendance, on peut l'avoir à 20 ans, on peut l'avoir à 40 ans. Et là où je voudrais un changement de notre monde, c'est d'essayer qu'il y ait moins de dureté dès le début. C'est-à-dire, au lieu de dire les vieux sont fragiles, il faut qu'on prenne la fragilité dans l'ensemble de la dureté de la vie en compte. Pas de cadence infernale, pas de... Voilà. S'il y a une expérience de la vieillesse et un enseignement de la vieillesse, c'est de ralentir la concurrence, la dureté, pour essayer que, on soit vieux toute la vie, d'une certaine manière, et qu'il n'y ait pas de mise à l'écart des vieux dans la société.
Merci, Rosemarie Lagrave. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Votre livre s'intitule « Se ressaisir, enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe » et c'est publié aux éditions de La Découverte. C'est fini, merci.
Merci Zoé Varier.
C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combe, à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard et à la technique aujourd'hui, c'était Fabien Capel. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Dun 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 d
Juste après le flash, vous retrouverez Vincent Josse et son grand atelier.